Les festins de noces et les banquets sont souvent l'occasion de chanter et de se réjouir. C'est aussi ce que faisaient et font toujours les Israélites lors de leurs célébrations religieuses, comme pour la fête de la moisson, Pentecôte. La fête des cabanes ou des tabernacles, et surtout la Pâque qui commémore la libération d'Égypte. D'ailleurs, avant de manger l'agneau pascal, les Juifs chantent le psaume 113 et 114, puis, après le repas, les psaumes 115 et 118. Les six cantiques, du 113 au 118, constituent la série appelée Hallel, parce que, et comme je l'ai déjà dit, ils commencent et finissent par Alléluia. Ces cantiques furent rédigés au retour de l'exil babylonien dans le but de louer la bonté et la fidélité de l'Éternel, le Dieu de la création et de la rédemption. Le psaume 114 évoque de façon poétique et pittoresque les phénomènes naturels qui ont accompagné la sortie d'Égypte, le séjour de leurs ancêtres dans le désert, ainsi que leur entrée dans le pays de Canaan, la terre promise. Je commence à lire le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple étranger, Juda devint le sanctuaire de l'Éternel et Israël son empire. Psaume 114, les versets 1 et 2. Pendant tout le temps qu'Abraham séjourne dans le pays de Canaan, c'est un émigré, un étranger. C'est pendant cette période que l'Éternel lui révèle que ses descendants iront en Égypte et deviendront une grande nation. Et effectivement, c'est là que les Hébreux devinrent très nombreux, ce qui leur valut aussi d'être persécutés. Le livre de l'Exode raconte en détail toutes leurs souffrances. Mais l'Éternel, qui, arbitrairement, a choisi Israël pour son peuple, est fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et délivre les esclaves hébreux. À l'origine, Dieu voulait que toute la nation, et pas seulement la tribu de Lévi, ait une vocation sacerdotale, devienne ses émissaires et fasse connaître le vrai Dieu au monde entier. Ce projet divin se réalisera enfin pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Je continue. La mer le vit et prit la fuite. Le Jourdain reflua, et toutes les montagnes se mirent à bondir, ainsi que des béliers, et toutes les collines se mirent à sauter, ainsi que des cabris. Qu'avais-tu, mer, pour fuir ainsi? Et toi, Jourdain, pour refluer? Et vous, montagnes, qu'avez-vous pour bondir comme des béliers? Et vous, collines, pour sauter comme des cabris? Psaume 114, les versets 3 à 6. Le psalmiste personnifie la mer rouge qui s'enfuit, le Jourdain qui recule, les montagnes et les collines qui bondissent devant le passage d'Israël. Parce que ce peuple appartient en propre à l'Éternel, toute la création tremble devant lui. Ce psaume est un grand encouragement pour le peuple revenu de Babylone parce qu'il est peu nombreux et doit faire face à d'énormes difficultés. Absolument impuissant par lui-même, Israël est vainqueur quand il fait confiance à son Dieu. L'Éternel, qui a frayé un passage dans la mer Rouge et du Jourdain, a fait des miracles extraordinaires que ne peut expliquer aucun phénomène normal. Les Hébreux ont d'abord quitté l'Égypte suite à la mort de tous les premiers-nés, un jugement auquel ils échappent parce qu'ils ont enduit les montants de leur porte d'entrée du sang d'un agneau fraîchement égorgé. Ce rituel préfigurait la venue du Christ qui offrit son sang sur la croix pour le salut de ceux qui lui font confiance. Je finis le psaume 114. Ô terre, tremble devant le Maître, oui, devant le Dieu de Jacob, ils changent leur roc en étang, la pierre en source jaillissante. Psaume 114, les versets 7 et 8. Le même Dieu qui a ébranlé la terre a fait et fera encore jaillir les eaux vives et salutaires pour son peuple. On se rend compte combien ce petit psaume pouvait être un encouragement et combien il est approprié pour la célébration de la Pâque. Nous arrivons au psaume 115, qui fait aussi partie de la série Hallel. Il était chanté en antiphonie par le cœur des Lévites, des prêtres, et par le peuple, qui se répandaient l'un à l'autre. Les disciples aussi l'ont chanté dans la chambre haute quand Jésus institua la scène en rompant le pain et en prenant la coupe de vin. Ce cantique célèbre la majesté de l'Éternel, ainsi que sa bonté envers son peuple, tout en l'exhortant de placer en lui sa totale confiance. Je commence à lire le psaume 115. « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu ?» Psaume 115, les versets 1 et 2. Ce sont les peuples païens qui posent cette question méprisante à Israël à cause de son abaissement. Mais elle devient pour le psalmiste l'occasion de proclamer haut et fort la toute-puissance de l'Éternel. Lorsqu'à la fin des temps, pendant la grande tribulation, les Juifs et les chrétiens seront persécutés par l'Antichrist, les nations se moqueront d'eux et demanderont « Alors ce Dieu en qui vous croyez, pourquoi ne vous délivre-t-il pas ?» Je continue le psaume 115. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Psaume 115, verset 3. « Comme Dieu est souverain et dispose d'une liberté et d'une puissance sans limite, rien ni personne ne peut contrecarrer ses projets. Cela veut dire que tout ce qui m'arrive, même les tragédies, est voulu par Dieu. C'est difficile à passer, j'en conviens. Je continue. Mais les idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Psaume 115, verset 4. Le Dieu d'Israël est un esprit éternel et le créateur de l'univers, tandis que les idoles sont fabriquées de toutes pièces par des artisans. Même les matériaux les plus nobles comme l'or et l'argent sont inertes et sans vie. Donner un corps et une forme humaine à la statue, emblème de la fausse divinité, révèle une notion de Dieu grossière qui est à des années-lumière de la vérité. Je continue. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Psaume 115, les versets 5 et 6. Les idoles n'ont ni pensée, ni intelligence, et les organes des sens sont visibles, mais inopérants. Je continue. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Psaume 115, verset 7. En d'autres mots, les idoles sont inertes et donc d'aucun secours si on les appelle à l'aide. Le prophète Ésaïe donne des fausses divinités une excellente description satirique que je lis. L'artisan a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts. Ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ses bois pour les brûler, il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi, tu es mon Dieu. » Ésaïe 44, les versets 14 à 17. Une fois l'idole fabriquée, quelqu'un doit l'emmener jusque dans son temple, puisqu'il ne peut pas marcher. Un homme porte Dieu sur son dos, alors que, dans le premier chapitre du livre du Deutéronome, l'Éternel a dit à son peuple « Tu as vu que ton Dieu t'a porté, comme un homme porte son fils. » Deutéronome, chapitre 1er, verset 31. On peut donc se poser la question « Est-ce que Dieu me porte ?» ou « Est-ce moi qui le porte ?» Pour la plupart des gens religieux, leurs dévotions et pratiques liturgiques sont à la fois un lourd fardeau qui les écrase et un boulet qu'ils traînent aux pieds. Cette façon de concevoir Dieu est très proche de l'idolâtrie parce qu'elle est similaire à la vision païenne d'une divinité qu'on doit manipuler, mais qu'il faut aussi apaiser. Je continue le psaume 115. Ils leur ressembleront, tous ceux qui fabriquent les idoles et tous ceux qui leur font confiance. Psaume 115, verset 8. Ceux qui se soumettent à des rites en croyant que ceux-ci vont leur procurer quelques bienfaits prouvent qu'ils n'ont aucune intelligence spirituelle. Je continue. Habitants d'Israël, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. Descendants d'Aaron, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. Vous qui le révérez, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. Psaume 115, les versets 9 à 11. Les bonnes gens demandent, mais que peut-on faire face à l'athéisme, au matérialisme et à l'immoralité? La réponse est simple, trop même pour l'homme moderne sophistiqué. Faites confiance à l'Éternel, approchez-vous de lui et reposez-vous sur lui. Voilà ce qu'il faut faire. Le psalmiste s'oppose à l'idolâtrie en répétant trois fois « Faites confiance à l'Éternel ». Tout le peuple et encore plus les prêtres israélites doivent avoir foi en l'Éternel. L'expression « Vous qui révérez l'Éternel » englobe tous les êtres humains, mais surtout les non-juifs qui font confiance au vrai Dieu plutôt qu'aux idoles. Pour la dédicace du temple, quand le roi Salomon a prié, il a dit « Et même si un étranger, qui ne fait pas partie de ton peuple, Israël, entend parler de toi et vient d'un pays lointain, veille l'écouter depuis le ciel et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront, ils te révéreront comme le fait ton peuple Israël. » 1 Roi, chapitre 8, les versets 41 à 43. Je continue le psaume 115. L'Éternel pense à nous, il bénira le peuple d'Israël, il bénira les descendants d'Aaron, il bénira ceux qui révèrent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Psaume 115, les versets 12 et 13. Quand on y réfléchit, il est étonnant que l'Éternel pense à nous, à chacun d'entre nous. Il n'oublie personne, vous et moi, sommes sur sa liste. Je ne connais ni le nom ni l'adresse de la plupart de ceux qui écoutent ou lisent les commentaires de Chemin de Vie. Et encore moins ce qui les touche de près dans leur vie de tous les jours. Mais Dieu sait absolument tout de vous, de moi, nos faits et gestes, et chacune de nos pensées. Et il en est ainsi depuis qu'il nous a créés. Il me vient à l'esprit ces paroles de David qui, dans le psaume 139 au verset 6, dit « Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. » Quand je voyage en avion et qu'on s'approche de l'aéroport, je peux voir distinctement tous les quartiers de la ville, chaque rue des villages et tous les lotissements. J'embrasse du regard des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Qui connaît tous ces gens et combien sont laissés pour compte? Dans notre société individuelle et impersonnelle, vous et moi sommes un numéro partout. Où nous vivons, travaillons et pour les services administratifs, bien sûr. Dieu me connaît bien et il m'aime. La preuve est qu'il se tient auprès de tous ceux qui se confient en lui. Est-ce que j'y crois? Et vous? Si oui, alors la foi structurera toute votre vie. Je continue le psaume 115. Que l'Éternel vous fasse prospérer, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 115, les versets 14 et 15. Le psalmiste demande la multiplication numérique du peuple d'Israël, mais aussi une bénédiction abondante tous azimuts sur ceux qui lui font confiance. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. » Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je continue. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Psaume 115, verset 16. Le psalmiste rappelle l'origine et la vocation de l'être humain. Il a été créé par le Dieu du ciel et il est chargé de bien gérer cette terre sur laquelle il vit. Les astronautes qui voyagent dans l'espace ne sont plus chez eux, mais dans le territoire de Dieu. Je continue le psaume 115. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Psaume 115, verset 17. Sous la nouvelle alliance, l'espérance de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ est individuelle et dans les cieux. Mais sous l'ancienne alliance, l'espérance d'Israël était nationale sur la terre. Au moment de la mort, la mission des Israélites fidèles à Dieu était terminée. Il allait au paradis, mais comme Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité, il n'avait pas accès à la gloire en présence de Dieu. Le psalmiste rappelle à ses contemporains que l'œuvre qu'ils doivent accomplir ici-bas ne peut pas se faire dans l'au-delà. Je finis le psaume 115. Mais nous louons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oui, louez l'Éternel. Psaume 115, verset 18. Ceux qui ont fait un bout de chemin avec Dieu ont un petit aperçu de sa magnificence, de sa grandeur et de sa bonté, qui fait que, devant ses œuvres, ils éclatent en actions de grâce. Nous arrivons maintenant au psaume 116 qui fait beaucoup penser au psaume 18 écrit par David parce que le psalmiste vient tout juste d'échapper à la mort. C'est encore sous les coups de l'émotion, avec des phrases entrecoupées et des pensées inachevées qu'il exprime sa reconnaissance à l'Éternel. Ce cantique tout simple fait partie du « Hallel », de ce que Jésus a chanté avec ses disciples à la veille de son exécution. Cette soirée fut pour lui comme une veillée d'armes qui lui donna du courage. Ce psaume lui rappela qu'au-delà de cette lourde tâche de porter les péchés du monde, il aurait ensuite raison de se réjouir. L'auteur de l'épître aux Hébreux écrit « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, Jésus a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. » Hébreux, chapitre 12, verset 2. Le psaume 116 regarde aussi vers l'avenir lorsque, pendant la grande tribulation, le reste fidèle d'Israël sera délivré par l'Éternel. En troisième lieu, ce psaume soulage l'angoisse et dissipe les doutes de celui qui est dans la détresse. Je commence à lire le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Psaume 116, les versets 1 et 2. Le texte hébreu dit « j'aime » et « j'invoquerai », sans donner de complément, mais il s'agit bien sûr de l'Éternel. Dans sa première épître, chapitre 4, verset 9, l'apôtre Jean écrit « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il est amour ». Dieu aime ses créatures, mais nous, de nature, nous le haïssons. Dans sa miséricorde, Dieu a délivré le psalmiste qui en retour lui exprime sa gratitude et son amour. Ceux qui ont compris que Jésus veut être leur sauveur l'aiment aussi en retour. Les apôtres Jean et Pierre écrivent respectivement. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, et 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 8 et 9. Je continue le psaume 116. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Psaume 116, verset 3. Le psalmiste utilise le même vocabulaire que David. Comme lui, il est dans une situation désespérée et sans l'intervention de Dieu. Il aurait péri. Les psalmistes personnifient souvent la mort ou le séjour des morts qui enveloppe ou qui saisit sa victime. Mais Jésus a choisi de prendre sur lui la sentence de mort qui pesait sur nos têtes afin de nous délivrer. Je continue. « Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. » L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. Psaume 116, les versets 4 et 5. Les auteurs des textes sacrés répètent souvent que Dieu est bon et qu'il fait grâce. Mais il est aussi juste et saint. Et en tant que juge moral de l'univers, il est obligé de punir les pécheurs. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus pour être notre substitut, notre sauveur. Je continue. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, les versets 6 et 7. Dieu vient en aide à ceux qui sont sans duplicité et qui se confient en lui. Je continue plus loin, le psaume 116. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Psaume 116, verset 10. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul cite ces paroles. La prière du psalmiste est à la fois la preuve de sa foi et sa foi en action. Je continue plus loin. J'élèverai la coupe du salut. Et je m'adresserai à l'Éternel lui-même. Psaume 116, verset 13. Cette coupe est l'une de celles qu'on sert pendant le repas de Pâques. Elle circule parmi les convives en souvenir de la délivrance d'Égypte. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 16, l'apôtre Paul l'appelle la coupe de bénédiction. C'est à ce moment que Jésus a dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. » Car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Luc, chapitre 22, les versets 17 et 18. Je continue plus loin, le psaume 16. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la vie de ses fidèles. Psaume 116, verset 15. Le psalmiste vient de faire l'expérience qu'il en coûte à Dieu de laisser mourir ses fidèles. La mort de Jésus ainsi que celle des martyrs passés, présents et à venir est précieuse aux yeux de l'Éternel. Je finis le psaume 116. Oui, l'Éternel, je suis ton serviteur. Oui, oh oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Psaume 116, les versets 16 et 17. En répétant « Je suis ton serviteur », le psalmiste affirme un droit et un devoir. « Serviteur de l'Éternel », c'est le titre le plus honorifique qui existe dans tout l'univers. Nous n'avons rien à offrir à Dieu sinon notre service et notre reconnaissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les croyants en ces termes. « Par Jésus ». Offrons donc, en tout temps à Dieu, un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15.